Eh bien, bonjour, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, et bienvenue dans ce florilège des arts en direct. Je remercie Claudia à la technique pour la réalisation de cette émission. Et oui, le florilège des arts, c'était à 10h, un vendredi sur deux. Nous passons après la matinale, ligne droite de Radio Courtoisie. Alors, je vous rappelle, chers auditeurs, si vous souhaitez poser des questions à mon invité, vous passerez, si vous le voulez bien, par courriel électronique et on me transmettra les questions, les remarques, les observations qui seront nécessaires à la bonne marche de cette émission et nous prendrons un temps en fin d'émission. Donc, ne tardez pas trop. Hein, ce peut être aussi après le bobino, pour poser les questions des auditeurs. Un sujet qui est un sujet à la fois historique, avec un invité pas comme les autres, un libraire pas comme les autres. Je crois que c'est d'ailleurs le titre de cette émission. Il s'agit de celui qu'on appelait le libraire du boulevard Murat dans Paris 16e. Il s'agit de Gaëtan de Salvator. Et il est avec nous, Gaëtan de Salvator, et je le salue. Bonjour, mon cher Gaëtan.
Bonjour Nicolas et bonjour Claudia. Et
Bien.
les auditeurs aussi.
Eh bien voilà, tous les auditeurs qui vous écoutent, qui vous connaissent sur des sujets tels que le crépuscule des Vaudorites ou encore Le monde a besoin d'un sauveur, des livres qui ont du succès et qui ont été entendus en particulier sur Radio Courtoisie. Eh bien, nous sommes aujourd'hui réunis non pas pour parler de ces sujets remarquablement eschatologiques, messianistes, souvent, mais en tout cas beaucoup moins, et pour parler et traiter du premier livre que vous avez édité, c'était les éditions L'Harmattan, en 2000, hein, voilà, qui s'appelait Paris Auteuil sous les bombes, septembre 1943. Avec une préface de Pierre-Christian Tétinger et Michel Thoriac. Des bombardements, des hurlements, des bombardements, des grondements, voilà les bruits distincts qui retentissaient à tour de rôle et que l'on entendait serrés dans une cave avec 30 voisins autour de soi, retenant leur souffle, les yeux fixes. Dès l'extinction du troisième bruit, la parole revenait soudain et les sourires et pourquoi pas les blagues. Juste avant que ne survienne le quatrième, les sirènes libératrices. Elles avaient un accent joyeux, celles-là. Elles disaient: Allez, reprenez le cours de votre vie. La mort, les destructions aujourd'hui, c'est pour les autres. Voilà, c'est un livre témoignage de ces bombardements anglo-américains sur Paris, en particulier sur l'Ouest parisien, sur le 16e, sur le 15e arrondissement de Paris, et puis donc sur ce Paris Auteuil sous les bombes en septembre 1943. C'est bien ça, mon cher Gaëtan, c'est un livre de témoignage, justement.
Oui, exactement. Et moi, j'ai eu l'occasion, la chance, lorsque j'étais libraire, donc dans cette librairie qui a été fondée en 1927, avec ma femme, nous avons été les troisièmes propriétaires et on est resté 33 ans après. On a été une longévité, disons, très, 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 très poussée. Et donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer une cliente. Au moment où on fêtait les 70 ans de la librairie. Et je me rappelle, ça a été un grandiose parce que derrière la librairie, il y avait tout un parc de la régie de Paris. Et j'ai eu cette idée saugrenue, un peu bizarre, de mettre en place des auteurs qui dédicaçaient dans le jardin. Et donc, à cette occasion, j'ai mobilisé la mairie du 16e, évidemment, et puis on a bloqué la porte de Saint-Cloud je ne m'attendais pas à avoir un monde considérable. Et il y avait à peu près 2000 personnes qui sont venues. Il faut dire que j'ai fait fort. J'avais invité des personnalités de l'époque comme Jean Piat, François-Olivier Gisbert, Michel Thoriac, etc., etc. Et donc, à ce moment-là, cette personne, un peu avant, quelques jours avant, je cherchais à créer l'événement. Et cette personne me fait part des photos, vous savez, comme dans le temps, des petites photos en noir et blanc, petites. Et c'était son papa qui avait photographié au moment où il y a eu justement tous ces dégâts. que les bombardements anglo-américains ont effectué sur le secteur du Paris-Ouest. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé avec 80 photos. Les premières photos d'ailleurs du débat, de l'arrivée de la libération de Paris par l'Ouest parisien à la porte de Saint-Cloud, les chars qui sont arrivés sur place. Dans le livre où j'ai toutes ces photos là hein, avec le et voilà. Donc c'est vrai qu'il y a eu donc 4 attaques sur les usines Renault,
oui,
et Citroën, mais surtout Renault, le 3 mars 1942. Après, il y a eu le 4 avril 1943, mais moi, je parle surtout dans le livre du bombardement du 3 et du 15 septembre 1943. Et c'est comme ça que j'ai pu récolter toutes ces informations. Alors, chance encore de plus, j'ai rencontré Philippe Boiry, qui faisait partie de ce qu'on appelle la défense passive. Il était volontaire. Et je m'en parle comme ça, par curiosité. Et à ce moment-là, il me dit, mais écoutez, moi, j'ai le rapport de police de l'époque. Parce qu'au départ, je voulais faire un livre photographique, bien sûr. Avec mais avec ce rapport en plus, l'idée m'est venue de faire le livre. Et c'est comme ça que le livre est né. Et je me retrouve avec à peu près 160 pages, bien nourri. Et je raconte tout. Je mets en scène tout ce qui s'est passé, rue par rue, toutes les dégâts de ces bombardiers américains, les B-17. On appelait ça des fortesses volantes.
Des fortesses volantes.
Oui, des fortesses volantes. Et bon, malheureusement, à cette époque-là, on n'avait pas toute la technique d'aujourd'hui pour bien viser les endroits à détruire. Et donc, ils n'avaient pas le compas dans l'œil, ils ont un peu bombardé comme ça, et il y a eu quand même près de 600 victimes, 225 blessés et 300 morts. Et tout a été dévasté. D'ailleurs, dans le livre, vous verrez, hein, toutes les photos sont là, hein, c'est hallucinant. Hein. Et donc, ces bombes, surtout, je parle bien du 3 et du 15 septembre, dévasté ce qu'on appelait à l'époque le village d'Auteuil. Et donc, il y a eu toutes les donc il y a eu 100 bombes, 100 points de chute, si vous voulez, parmi lesquels donc au boulevard Murat, la rue Michel-Ange, le Chardon-Lagache, l'avenue de Versailles. Ouais. Donc tout a été dévasté, et des bombes de 250 kilos. Hein.
D'accord.
C'est énorme. Et donc, c'est des durées, des journées vraiment terrifiantes, hallucinantes pour les gens, les habitants qui habitaient à cet endroit-là. Voilà. Et la situation a été désastreuse. Et donc, tout le voisinage a été… Alors, les pauvres gens étaient abasourdis de recevoir toutes ces bombes. Et d'ailleurs, j'ai un témoignage dans le livre de François Lacoste. Il disait qu'à cette époque, il avait 10 ans et donc il habitait au boulevard Suchet.
Oui.
Et je me rappelle, quand il est arrivé à la librairie, il s'est mis à pleurer parce qu'il dit, mais monsieur, mais ce récit, personne ne l'a raconté jusqu'à aujourd'hui. C'est la première fois que je vois dans votre livre, page par page, tout ce qui s'est passé, rue par rue. Moi, j'ai eu plein de personnes qui sont venues et qui sont effondrées dans mes bras. Et c'était vraiment touchant de voir. J'ai même une dame qui me disait, vous savez, monsieur, ma mère était enceinte. J'ai accouché et je parle de cet accouchement dans le livre.
Ouais.
Elle ne le savait pas. Voilà. Et donc, ce livre est un livre de mémoire. C'est un livre de historique, si on peut dire, un livre historique. Voilà.
Alors, les Anglo-Américains cherchaient d'abord à frapper les usines Citroën, Renault, où, semble-t-il, les Allemands planquaient, si j'ose dire, entreposaient une partie de leur armement, c'est bien ça ?
C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils fabriquaient aussi des munitions. Hein. Donc il y a eu quand même des forces volantes qui ont été détruites par la DCA allemande. Et donc, ils sont tombés. Hein, et d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'Américains, surtout les pilotes, qui ont été complètement détruits, quoi. Et donc, je raconte tout ça dans le livre. C'est hallucinant, quoi. J'ai tombé sur moi. Alors, c'est très amusant parce que le village d'Auteuil, c'est un village qui était… D'ailleurs, la préface de Pierre-Christian Tétanger, qui était à l'époque jeune homme, quoi, si on peut dire, parce que, eh bien, il a bien voulu, il s'est trouvé à mon époque, il était maire du 16e. Hein, et
Il
quand
était déjà maire du 16e à l'époque, d'accord,
voilà, à
oui.
l'époque, il était maire du 16e. Donc, quand je lui ai raconté tout ça, il m'a dit, mais je vais faire la préface. Et c'est comme ça qu'on voit au début la préface de Pierre-Christian Tétanger. Et il explique très bien que ce village d'Auteuil était le village des philosophes, des encyclopédistes et tout ça. Et c'était un village paisible, très paisible. Alfred de Musset, tout ça et tout ça. Et après, j'en ai parlé à Michel Thoriac. Michel Thoriac, c'était un grand ami pour moi parce que c'est lui qui m'a permis d'avancer et de faire connaître beaucoup de personnalités par la suite, parce que je me suis dédié aux dédicaces d'auteurs. J'en faisais beaucoup. Beaucoup d'auteurs sont venus chez nous. Et Michel Thoriac était, il faut pas oublier qu'il était PDG de Radio France. Et
Oui,
c'est
ce journaliste,
lui,
bien sûr.
voilà, un grand journaliste, reporteur de guerre et
Grand
tout ça.
reporter à l'origine, oui.
Voilà, c'est ça.
Notamment l'Indochine, le Proche-Orient,
Voilà,
voilà.
voilà, voilà, voilà. Et Michel Thoriac a voulu absolument, lui aussi, intervenir dans ce livre. Hein, et il a fait aussi ma quatrième de couverture. Hein, et il a tenu absolument à rendre hommage à ce livre-là. Et c'est comme ça que ce livre a eu un certain succès quand je l'ai sorti. Et la mairie 16e, bien sûr, a participé beaucoup à le faire connaître. Voilà. Voilà.
Je me
Michel
rappelle
Thoriac,
qu'il
il ne faut
était
pas
aussi
oublier.
membre de, il était membre de l'Institut Charles de Gaulle, hein, aussi,
C'est ça, c'est ça. Et c'est grâce à lui, d'ailleurs, que j'ai obtenu,
hein.
parce qu'il était biographe du général de Gaulle, et il en a fait plein de livres là-dessus, et il s'était mis aussi d'accord avec l'amiral de Gaulle, le fils du général de Gaulle. Et c'est comme ça que quand il a sorti le livre De Gaulle, mon père, et les images de Gaulle, eh bien, nous avons fait deux signatures, pas à la librairie, parce qu'évidemment, la personnalité de l'amiral de Gaulle était très importante. En plus, l'office du général de Gaulle
Et
est
l'amiral, oui.
occupé la mairie du 16e, et nous avons fait le 4 novembre 2003, et puis après le 3 décembre, nous avons fait deux signatures, une dédicace à la mairie du 16e, et on a récolté énormément de monde qui est venu, télévision et tout ça et tout ça, et c'était tellement impressionnant. Le passage à la dédicace qu'on avait pensé de faire, hein, j'avais mis des fils, des cordelettes, ils m'ont tout foutu en l'air, tellement tout le monde s'était précipité sous la table de l'amiral de Gaulle pour avoir sa dédicace. Et ça a été vraiment indescriptible. Et après, bon, comme on ne pouvait plus faire face, parce qu'il y avait des milliers de personnes qui faisaient la queue, il y a eu presque, je sais plus moi, 800 mètres de personnes qui faisaient la queue, toute la mairie du 16e, jusqu'en bas dans la rue, etc., etc. Et donc, on a récolté à peu près 1 200 livres. Et j'ai pris l'amiral de Gaulle en otage. Et pendant 15 jours, d'une des salles de la mairie du 16e, tous les après-midi, l'amiral de Gaulle venait pour dédicacer les livres.
Ah bah dis donc. Oui, quel
C'était un
succès.
moment délicieux parce que on a pu, avec mon équipe, on a pu bavarder avec lui dans l'intimité. Alors, quel dommage qu'on n'avait pas encore le téléphone portable. Parce que j'aurais bien voulu enregistrer tout ce qu'on s'est dit, parce que j'en ai eu des informations. J'en ai eu des informations que je garde pour moi, malheureusement, maintenant. J'ai toujours voulu faire un livre mémoire, mais bon,
Un
maintenant.
livre mémoire sur ces 25 ans, 30 ans, c'est ça,
Ah,
passé.
sous les 33 ans de la librairie Murat, parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai connu très peu, hein, jusqu'au début, ça a commencé. Hein. Marcel Pagnol, j'ai connu Jono, j'ai connu, enfin Jono, pas tout à fait, pas moi, c'est-à-dire que j'ai retrouvé, lorsque je suis devenu propriétaire, j'ai retrouvé à la cave des livres de comptes. Parce qu'à l'époque, on avait l'habitude de payer au mois. Ouais. Et Marcel Pagnol payait au mois.
Ah oui.
Et donc, oui, j'ai trouvé des cahiers de comptes. Hein. Et d'ailleurs, on peut dire que Marcel Pagnol a écrit Topaz avec oui. L'encre dans la librairie.
Avec
l'encre dans la librairie.
Ah oui.
Parce que la librairie s'appelait la librairie Murat.
Oui, bien sûr.
Voilà. Et moi, j'en ai connu du monde. Après, j'ai eu Jean-Marie Lustiger, Robert Sabatier qui venait régulièrement. D'ailleurs, j'ai tous ses livres dédicacés. Il me les dédicaçait. Il arrivait à la librairie, il me dédicaçait les livres. Donc, tout ça, ce sont des souvenirs importants, exclusifs. J'ai eu Jean-Pierre, j'ai eu Maud Manoni, une des grandes psychologues de l'époque, et qui était dans la tendance de Lacan. J'ai eu Jean-Paul Guerlain qui venait souvent, et puis tant d'autres, François Mauricier, tout ça. D'ailleurs, dans un site, le site que j'ai mis en place, Gaëtan et Martine de Salvatore, parce que ma femme aussi est écrit, eh bien, oui. Vous avez toute l'arborescence, si on peut dire, de tout ce qu'on a pu faire avec cette librairie. Mais le plus important, c'est ce livre que j'ai pu faire, le premier livre. C'est comme ça que ça m'a donné envie de moi-même d'écrire ce livre. Oui. Et donc, on peut dire, c'est un marquage de la Deuxième Guerre mondiale dans ce livre-là, et qui, un récit que personne ne connaissait, Voilà. On voit ce qui se passe actuellement, évidemment. On peut toujours comprendre pourquoi les Américains, ils ont toujours cette idée saugrenue, un peu dans la tradition cow-boy et Far West, c'est de dégainer à chaque fois, mais sans considérer les dégâts et les
ils bombardent de haut. C'est vrai qu'ils ont attendu fort longtemps avant de débarquer réellement. Voilà. Et il y a ces pages, ces heures sombres finalement de la guerre, avec des Anglais et des Américains qui bombardent. Et évidemment, ils bombardent les entrepôts allemands, mais ils bombardent aussi les populations civiles qui sont autour. Et ça, il ne faut pas l'oublier.
C'est ça. Alors, ce qui est important, c'est à l'époque, on ne parlait pas de frappe chirurgicale.
Ah bah.
dommage collatéraux.
Oui.
Mais on disait victime, mort pour la France. Voilà. C'est ça, la France avait à courber les Chines à ce moment-là, mais à supporter terriblement tout ce fracas, ce bombardement, et des gens qui ne s'attendaient pas à ça. Hein. Jamais on aurait pensé que les Anglo-Américains allaient bombarder de cette manière-là. Hein. Jamais. Hein. Et d'ailleurs, sont toujours considérés qu'il fallait pas faire ça, hein. Détruire tout cet endroit historique. Hein. Pierre-Christian Tétanger explique très bien ce que c'était le village d'Auteuil de l'époque. Hein. C'était quelque chose de vraiment marquant avec la littérature, la philosophie, tout. Hein. Voilà.
Oui, alors j'imagine que pour l'ensemble de ce village parisien, finalement, le traumatisme a été terrible. Est-ce que de votre librairie, à part ce client qui est entré et qui a pleuré parce que justement ça lui rappelait ce qu'il avait vécu, ce livre, dont je rappelle le titre, Paris, Auteuil, sous les bombes, c'est les éditions L'Harmattan. Vous pouvez, chers auditeurs, vous procurer ce livre qui fut édité en 2000, qui a 140 pages pour 20,85 € aux éditions L'Harmattan. Vous pouvez le trouver, j'imagine, sur Amazon, ce livre, d'ailleurs.
Oui, pas de problème, oui. C'est un livre qui date quand même du moment. J'avais des exemplaires, j'aurais pu, mais maintenant, j'en ai plus. Hein. Donc vous, les auditeurs et les auditrices qui seraient intéressés de cette page de l'histoire de France, eh bien, ils peuvent se procurer facilement, soit par l'éditeur, L'Harmattan, ou directement sur Amazon. Hein, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Ce n'est pas comme les livres que j'édite moi-même en auto-édition qu'il faut passer par moi. sous mon site.
Voilà.
Voilà.
Exactement.
Entrenous.net. Voilà. Entre, trait d'union, nous.net.
Et ça, c'est le site internet qui permet d'accéder pour les autres ouvrages, que ce
Voilà.
soit Le monde a besoin d'un sauveur ou que ce soit Le crépuscule des Vaudorites.
C'est ça.
Oui, je disais donc ce traumatisme des bombardements que vous avez décrit dans cet ouvrage, il a laissé des traces. Est-ce que, puisque vous étiez justement le libraire du boulevard Murat, vous étiez installé finalement, bien justement, dans cette zone qui fut une zone bombardée. Est-ce que vous avez ressenti ces traces justement de ces bombardements?
Oui, on en a. D'ailleurs, j'ai recensé, parce que évidemment, quand j'ai eu le rapport de police de cette époque-là par Philippe Boiry, je me suis promené partout, hein, parce que bon, moi-même, je connaissais même pas ça, je savais pas. Hein, il faut pas oublier que moi, je suis d'origine italienne, hein, je suis arrivé après, hein, et donc je connaissais pas du tout. Et donc je me suis promené, j'ai regardé tout ça, donc le pont de Gargano, tout ça, et il reste quand même, enfin. Je me suis promené, il restait encore quelques détails précis que j'ai trouvé des bombardements qui sont restés, hein, les impacts, des choses comme ça, et parce qu'il y a des immeubles qui sont très 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 anciens, hein, très anciens. Voilà, donc j'ai retrouvé ça. Et j'ai beaucoup aimé Robert Sabatier, parce qu'il est venu absolument s'approprier de ce livre-là. Et je lui ai même dédicacé le livre. Ça m'a fait chaud au cœur parce que c'était ma première dédicace que je faisais. Et Robert Sabatier, il était fortement intéressé à ça. Et lui-même, après, on s'est lié d'amitié et il venait régulièrement et on discutait, on parlait parce que lui, il a vécu cette époque-là.
Oui. Oui, bien sûr. Et sinon, dans le les donc vous aviez des clients, vous aviez un certain nombre de personnes qui venaient faire ce témoignage.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et il y a eu aussi André Frossard, il ne faut pas oublier qu'André Frossard, académicien, c'était un grand chroniqueur à l'époque, le journal L'Aurore.
Oui.
Il faisait toujours son petit billet tous les matins et les gens se précipitaient toujours à connaître en quelques mots. Il résumait là ce qui s'était passé. C'était surprenant. Et André Frossard, d'ailleurs, il est venu souvent à la librairie parce il avait sa sœur, Janine, qui habitait à côté dans la librairie.
Oui.
D'ailleurs, c'est avec elle, avec Janine, que nous avons fondé le bulletin littéraire Écolibri. Écolibri. Et avec Jeanine Frossard et Jean-Jacques Rubuffat. Jean-Jacques Rubuffat, il faut pas oublier, c'était un opérateur, un caméraman des cinq colonnes à la une avec Lazareff, De Grove et tout ça. Et donc, nous avons mis en place ce bulletin littéraire et
Oui.
on a tiré à 2500 exemplaires tous les 3 mois. Et les gens se précipitaient chercher ce bulletin à chaque fois. Et on racontait tout, hein. On disait tout ça. Hein. On a parlé de la Deuxième Guerre mondiale, on a parlé du livre, on a parlé de tous ces détails-là. Malheureusement, toutes ces personnes-là sont parties, ne sont plus là. Donc, il reste le livre et moi.
Alors voilà, il reste le livre et où il y a quelque chose de nostalgique, évidemment, dans
Oui,
tout cela.
maintenant, oui. J'ai une certaine nostalgie parce que c'est des hommes extraordinaires, pleins de mémoire, des gens d'honneur, des gens qui, quand ils disaient quelque chose, ils retournaient leur langue dans leur bouche 2, 3 fois avant de sortir la parole. Ce n'est pas comme aujourd'hui qu'on se laisse tout de suite embarquer sous des mots qui n'ont pas de sens. Voilà. Et donc André Frossard, c'était quelque chose. Et d'ailleurs, André Frossard, il venait à la librairie quand il allait voir sa sœur, et souvent il se rencontrait avec Jean-Marie Lustiger.
Ah oui,
Jean-Marie Lustiger, oui, parce que
c'est un
Jean-Marie
lieu de
Lustiger,
rencontre
ah
finalement,
oui,
cette librairie.
Jean-Marie Lustiger était curé à l'époque de la paroisse Saint-Jean de Chantal,
D'accord.
qui a été bombardé, hein. Il ne faut pas oublier, elle a été bombardée, hein. Le toit a sauté et tout ça et tout ça, hein. Et donc, des fois, je me rappelle d'une anecdote assez surprenante, qui m'a, à l'époque, je ne connaissais pas grand-chose, hein. Eh bien, c'est André Frossard qui dit à Jean-Marie, il dit, au fond, tu es un carré rond. Et Jean-Marie Lustiger dit, mais ça veut dire quoi, un carré rond? Et il dit, ben, t'es un catholique de plus, mais t'es pas un juif de moins. Parce qu'il était resté toujours attaché à sa loi mosaïque, tandis que André Frossard, vous savez qu'il a écrit ce fameux livre Dieu existe, je l'ai rencontré. D'ailleurs, on a fait la dédicace longtemps après. J'ai quelques livres à lui, d'André Frossard, dédicacés par lui dans ma bibliothèque. Et André Frossard était très, très. Très méticuleux parce qu'il s'était attaché à Jean-Paul II. D'ailleurs, il lui rendait souvent visite à Rome.
Ah oui.
Et Jean-Paul II, c'est pareil, il espérait que Lustiger allait devenir son successeur. Et il
Ah
s'était lié
oui.
d'amitié. Ah oui. Parce qu'évidemment, il y a une prophétie de Malachie qui dit que le successeur de Jean-Paul II, il aurait dû avoir la devise de la gloire et de l'olivier. Or, la gloire et l'olivier, c'est le symbole des Israélites, si on peut dire. Et Jean-Paul II comptait beaucoup sur Lustiger. Et c'est comme ça que quelques temps après, il est devenu cardinal. Évêque et cardinal. Et donc, voilà. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait, puisqu'il est mort par un cancer de la gorge, parce qu'il fumait beaucoup, 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 beaucoup. Et voilà. Et c'est pour ça que André Forçat lui avait sorti ça, hein, parce que lorsque Jean-Marie Lustiger est décédé, donc il y a eu évidemment l'enterrement classique, catholique, mais il y a eu quand même la prière du Kadesh. Pour terminer son enterrement. Voilà.
Pour l'ustiger.
Pour Lustiger, voilà. Donc, toutes ces anecdotes qui se sont passées à la librairie, hein, c'est des dialogues. C'est pour ça que je dis toujours quel dommage que le téléphone portable n'existait pas à cette époque-là, parce que j'aurais pu enregistrer tout ça, et parce qu'évidemment, maintenant.
Heureusement qu'il n'existait pas, car il n'y a plus de beaux esprits avec le téléphone portable. C'est un destructeur de l'esprit, je trouve.
Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Évidemment, aujourd'hui, on n'utilise pas le doudou des adultes. Hein. Vous savez que le portable, maintenant, est devenu le doudou des adultes. Hein. Hein, le
Ils
matin, on
dorment
se
ce soir.
lève, on n'allume plus la cigarette, on allume le téléphone portable.
Il faudrait qu'ils se réveillent, oui, ces adultes. Et tout à... Bah oui, il est interdit de fumer dans les lieux publics. Alors, par contre, il n'est pas interdit de compulser névrotiquement et
C'est ça.
nerveusement son téléphone portable.
C'est ça.
C'est vrai. Bon, bah, vous allez continuer à nous raconter des anecdotes de ce genre, mon cher Gaëtan, après, si vous le voulez bien, cette très courte pause.
D'accord. Très bien.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Voilà, votre radio, chers auditeurs de Radio Courtoisie, a besoin de vous. Vous êtes dans le florilège des arts sur Radio Courtoisie et ces émissions, eh bien, nous les produisons justement grâce à votre aide, grâce à votre soutien. Car même si les uns les autres, nous sommes bien bénévoles, ce n'est pas le cas, par exemple, eh bien, de ceux qui vont permettre la réalisation de cette émission. Et il faut évidemment, eh bien, ces personnes ont le droit, comme tout à chacun, de vivre de son travail. Et c'est une excellente chose comme ça. Alors, chers auditeurs, donc, n'hésitez pas à venir nous aider. Nous avons besoin de vous. C'est votre radio. Et nous parlons aujourd'hui, finalement, d'un sujet sur la librairie Murat avec Gaëtan de Salvator. On le sait bien, hein, la Radio Courtoisie, c'est Boulevard Murat aussi. Vous n'étiez pas trop loin de Radio Courtoisie. Aviez-vous, mon cher Gaëtan, des patrons d'émission de Radio Courtoisie qui venaient dans votre librairie?
Eh bien, il y avait Jean Ferret, par exemple, qui était un des fondateurs de Radio Courtoisie. Hein.
Eh bien, c'était même le fondateur numéro
Le
un.
fondateur, le fondateur. Et c'est un homme charmant. Il était charmant comme tout. À chaque fois qu'il venait, il était là en train de chercher un livre à acheter à la librairie. Et puis, évidemment, mon ami.
Vous aviez Serge de Beketch.
Serge de Beketch, qui des fois, il m'a demandé des informations et que je avais volontiers, je lui donnais. Et c'est comme ça qu'on a pu, et il a pu surtout, développer certains thèmes bien précis concernant le monde politique, parce qu'il y avait des politiciens qui venaient chez moi. Et donc, voilà. Et donc, de temps en temps, je lui donnais des petits détails comme ça, comme par exemple, quand il y a eu cette idée de faire cette cathédrale ou église à Ivry.
Ah oui, la cathédrale d'Ivry, oui.
La cathédrale d'Ivry, maçonnique.
Oui,
et
oui.
Je le savais bien avant cette histoire, que tout allait se mettre en place. Vous savez que cette cathédrale, elle a la forme d'un tronqué. C'est une sorte de stèle maçonnique.
Mmh.
Maçonnique. Et donc, on avait fait une émission avec Serge de Beketch là-dessus. Et voilà.
Et ben celle qu'on a appelée la cathédrale de la résurrection.
C'est ça, oui, c'est ça, oui. voilà, et tout, plein de choses comme ça. Hein. C'est Radio Courvoisier à l'époque était pour moi une. D'ailleurs, je mettais des fois, je mettais la radio bien fort dans la librairie pour que les gens ils écoutaient ce qui s'est passé. Et les gens, ils disaient souvent, c'est quoi cette radio-là? Je ne la connais pas, c'est quoi, comment on fait, etc. etc. Donc, j'ai été un peu le développeur pour faire connaître Radio Courtoisie.
Dans le quartier.
Dans le quartier. Ah oui, parce que j'étais quand même assez militant là-dessus. Hein.
Ah oui, vous étiez, oui, vous vous sentiez proche de cette radio.
Bon, quoique je faisais très attention, parce qu'il ne faut pas oublier
oui.
que la mairie du 16e, hein, c'était quand même un fief qu'il fallait faire très attention à ne pas trop développer certaines choses. Voilà. Mais sinon, ouais. dans l'ensemble, on peut dire que Pierre-Christian Tétanger a été un bon parrain. Hein. Il m'a permis d'être, comment dire, membre du conseil de Paris, 16e.
Vous avez été sur sa liste?
Oui, non, j'ai jamais voulu, hein, parce que justement, c'était un peu délicat de ne pas se mettre là, mais j'étais membre quand même dans le domaine de la culture, parce que à chaque fois que je faisais des dédicaces, souvent, eh bien, ils étaient toujours là, présents, qui venaient, toute l'équipe venait là. Hein,
ouais.
Pierre-Christian Tétanger venait avec ses billets de son. Et qui a acheté des livres toutes par 5, par 10 des fois.
C'était
mmh. quelque chose.
Mmh.
C'était un homme délicieux, d'une culture gigantesque. Vraiment, c'est là qu'on a fait plein de choses. D'ailleurs, j'ai aussi fait des signatures. J'ai exporté mes dédicaces dans des mmh. lieux. Comme par exemple le parfumeur, le nez de France dans la parfumerie, Jean-Paul Guerlain.
Oui.
Je l'avais exporté lorsqu'il a sorti son livre Le sens des parfums. Je l'avais exporté à la galerie Haim dans le 8e. Et on avait même fait venir un traiteur créole. C'est plein de choses comme ça. Mais bon, tout ça fait partie d'un tout. Hein. N'oublions pas aussi que nous avons eu Marthe Richard, vous savez, la fameuse espionne
mm-hmm.
Politique qui est devenue une politicienne par la suite. Hein. C'est elle qui a écrit le livre Destin de femme. Et je me rappelle quand elle est venue, elle m'a présenté son livre. Écrit en japonais. J'ai dit, mais je ne parle pas japonais. Comment... Oui, mais c'est pas grave. Je vais vous le dédicacer parce que c'est la première fois que mon livre, il est en japonais. Et c'est comme ça que Marthe Richard était extraordinaire. Elle venait souvent changer sa plume de stylo-plume parce que tous les 3 mois, elle cassait sa plume, elle s'endormait, et puis son stylo est tombé par terre, et à chaque fois, elle lui changeait sa plume de stylo plume. Voilà, tous ces trucs-là, elle m'en a raconté des choses, hein, parce qu'elle était quand même espionne pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle faisait le jeu entre la France et les Allemands. Et c'est comme ça qu'on a découvert certaines choses qui ont été utiles dans la politique de l'époque. Voilà. Mais plein de choses comme ça, c'est énorme, c'est énorme. Voilà. Et on peut dire que j'ai été un peu le témoin de plein de choses, de plein de choses.
Rappelez-nous à l'époque, rappelez-nous entre quelle année vous avez dirigé cette
De
librairie?
1976 jusqu'en 2009.
Et elle a fermé en
Elle a
2009.
fermé malheureusement parce que lorsque j'ai voulu passer le flambeau, si on peut dire, à chaque fois, les libraires qui venaient consulter la librairie, ils disaient, mais monsieur, nous sommes incapables de faire. À cette époque-là, on ne faisait pas des signatures. J'étais un peu pionnier, si on peut dire. Et moi, j'ai fait des salons littéraires. J'en ai fait à peu près 150 salons littéraires à l'époque. J'ai même organisé avec Michel Tauriac, qui était le président de l'AOC, l'Action des écrivains combattants, et à chaque fois, on occupait les salons des Invalides, les trois salons des Invalides, et on a pu mettre des fois jusqu'à 320 auteurs en même temps.
Ah oui.
C'est moi qui organisais tout ça.
Quel
Et
était le nom de ces salons?
c'est le salon de la AEC, AEC, c'est-à-dire
D'accord.
Association des écrivains combattants.
Des combattants, oui.
Donc tout le monde participait, il y avait des généraux, il y avait des auteurs, et c'est là que j'ai connu plein de gens, hein, et qui après, ils m'ont demandé de venir à la librairie pour faire, à titre individuel, de faire la dédicace. Et on avait occupé les trois salons des Invalides, et je me rappelle de cette anecdote d'un jour de Vladimir Volkov, qui était un écrivain de l'époque assez connu.
Oui.
Et vous savez, moi, j'étais obligé de mettre les auteurs par ordre alphabétique. Évidemment, il y avait des couloirs. Et Volkov, lettre W, s'est trouvé à la fin. Il m'a fait un scandale, pas possible, parce qu'il ne voulait pas rester là. Et donc, à un moment, il s'est levé et il voulait partir. Alors, Michel Tauriat, qui était le président, il est arrivé et il lui a dit, mais enfin, monsieur, vous ne pouvez pas partir comme ça. Il dit, non, 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 où me changer la place? Et du coup, je me suis retrouvé avec les. On avait fait mettre près de 80 livres sous le dos et avec la table vide. Voilà. Y a plein de choses comme ça. Il y a eu aussi une fois, il y avait. L'amiral de Gaulle, à la sortie de son livre Les De Gaulle en images, et on l'avait fait participer à ce salon littéraire, et il y avait un auteur qui présentait un livre contre De Gaulle. Évidemment, l'amiral de Gaulle n'a pas voulu être à côté de ce personnage-là, et du coup, ben, l'amiral de Gaulle, ben, il a fait la chaise vide. Enfin, ce sont des choses comme ça qui se sont passées. Devant mes yeux, et c'est c'est comme quand on a fêté les 70 ans de la librairie et les 80 ans de la librairie. Pour les 70 ans, il y avait le patron de l'époque qui s'appelait Charles-Henri Flammarion, le patron Flammarion, qui est venu avec toute son équipe. Et puis il y a plein d'auteurs, plein de, c'était voilà. Et tout ça reste dans ma mémoire
Alors 2009, c'est l'année où ça s'arrête. C'est quand même
oui.
terrible ça qu'une vie
Eh ben oui, parce
pareille.
que les malheureusement,
33 ans passés dans
comme je
cette...
disais tout à l'heure, les libraires venaient, mais monsieur, nous on est capable de faire des choses comme ça. Et puis en plus, il est vrai que je faisais à l'époque le chiffre d'affaires. Le plus important, je le faisais avec les auteurs. Hein. Je m'exportais. Voilà. Et donc, j'étais aussi ce qu'on peut dire le libraire événementiel. Le libraire événementiel.
Oui, les auteurs quand ils sortaient leurs ouvrages, oui, bien
Voilà.
sûr.
Je me
Ils venaient faire
rappelle.
des séances de dédicace.
Je me rappelle de Jean Montaldou. Je ne sais pas s'il y a encore des gens qui connaissent cet écrivain.
Oui, oui, bien sûr.
Qui était très connu hein, quand il avait sorti le livre sous Mitterrand. Hey. Mitterrand et les 40 voleurs.
Hey, tout à fait.
Voilà, vous vous rappelez de ça. Hein.
Tout à fait.
Et bien, on avait la queue jusqu'à sous la place de la porte de Saint-Cloud.
Ah oui.
Ah oui, 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 c'était impressionnant, impressionnant. Je crois qu'il avait dédicacé, il a voulu absolument rester jusqu'à 11 heures du soir pour dédicacer les livres et revenir le lendemain pour continuer à dédicacer ses livres.
Eh ben.
C'était quelque chose. Hein. Et à côté de ma porte, dans la librairie Murat, il y avait deux agents de sécurité et des services spéciaux français.
Ah oui,
ouais, ouais,
bah, tiens donc.
Là.
Ils
ouais,
bien
là.
Sûr.
Ils étaient là.
Les renseignements généraux.
Les renseignements généraux, voilà, c'est ça, exactement. Exactement.
Mmh.
On avait la signature de Claude Goasguen quand il a sorti son livre Bobo, Paris Bobo.
L'ancien maire du 16e.
Du 16e, après Pierre-Christian Tétanger.
Ouais.
Et il avait invité à l'époque, tout fraîchement, président de la République Sarkozy. Et c'est pareil, on avait bloqué la place, la porte de Saint-Cloud. Ça venait de toutes parts. C'était impressionnant. Hein. Les cars de police étaient autour. Tout était bloqué. Hein.
Mmh.
Et voilà, c'est pour ça que quand j'ai moi, on peut dire que le livre Paris Auteuil sous les bombes 1943 a été pour moi, ça m'a propulsé, si on peut dire, et c'est par la suite que tous les éditeurs, j'avais des coups de fil presque tous les jours des éditeurs qui m'ont demandé de mettre en scène des auteurs, hein, tous les jours.
Oui.
Mais je pouvais pas le faire parce qu'il fallait solliciter à chaque fois la clientèle, donc je faisais une certaine distance entre.
Alors, comment vous faisiez justement pour choisir?
Eh ben, écoute, eh ben, selon l'actualité et selon le sujet, hein, bien sûr, parce que évidemment, je lisais tous les livres, hein, parce que il fallait absolument connaître le sujet pour pouvoir le présenter et puis après faire le sujet et présenter à la clientèle hein, qui était présente à chaque fois. Hein. J'avais une clientèle impressionnante, impressionnante. Et c'est pour ça qu'on avait pensé avec Jeannine Frossard, la sœur de André Frossard, et Jean-Jacques Roubuffard et puis d'autres, de mettre en place ce bulletin littéraire que j'avais fondé. Et c'est comme ça que les gens étaient au courant et de tout ce que j'allais faire, parce qu'on annonçait tout ça. Hein. Mais malheureusement, tout ça, tout est parti. Hein. Et j'ai eu un pincement au cœur quand j'étais obligé de partir. Et moi, quand j'ai vendu à un holding. Je ne savais pas ce que ça allait devenir. Hein. C'est
oui.
Un holding qui avait besoin de cet emplacement parce que j'étais bien placé. Hein, pour dire ce qu'il y a. Hein. Et puis après, j'ai su.
Rappelez-nous, vous étiez placé où exactement?
Tout au début de la porte de Saint-Cloud, c'est-à-dire le boulevard Murat, en descendant vers la Seine.
Oui.
Donc la place de la porte de Saint-Cloud, il y a l'avenue de Versailles, c'est sous la droite, en descendant à partir d'Auteuil. En descendant, eh bien, tout au début, au 122 Boulevard Murat. Au 122 Boulevard Murat. Voilà. Et d'ailleurs, dans mon livre Paris-Auteuil de 1943, j'ai une photo de la librairie et du bombardement de la place Léon de Belle,
ouais.
Qui est bombardée et qui a reçu une bombe sur la tête. Eh bien, d'ailleurs, j'ai marqué sur la librairie, juste en face de la librairie Murat. Voilà.
Hey.
Voilà. Et dans ce livre, vous avez les facsimilés de l'époque de Paris Soir et Petit Parisien qui parlaient, qui évidemment, ils étaient un peu associés aux occupants.
Mm-hmm.
Et donc, vous avez les couvertures de Paris Soir. Qui sortait deux ou trois fois par jour.
Oui.
Et nous avons voilà, Paris a été bombardé, etc., etc. Les bombes sont tombées par les alliés anglo-américains, etc., etc.
Mm-hmm.
Tout ça. Hein. Et de toute façon, dans ce livre, vous avez tout le récit. Tout le récit, tout ce qui s'est passé, comment les bombes sont tombées, rue par rue, immeuble par immeuble, on peut dire, hein. Puisque j'ai recensé tous ces impacts, sont...
Vous parlez aussi de ces bombes, de ces forteresses volantes qui ont explosé carrément au-dessus.
C'est pour ça qu'on peut maintenant, avec ce qui se passe actuellement en Iran et au Liban, c'est surtout au Liban, hein, ce qui se passe actuellement, on peut dire là cette fameuse phrase de comment il s'appelle, c'est Oscar Wilde qui a dit que les Américains n'ont jamais connu la civilisation, ils sont passés par la barbarie, de la barbarie à la destruction, à la sauvagerie, quoi, si on peut dire. Parce que c'est vrai qu'ils ne font pas très attention à ce qui se passe avec les victimes des civils. On le voit ce qui se passe actuellement avec Israël et le Liban, qui c'est un scandale, hein, c'est un scandale, c'est pas possible. C'est vrai qu'il faut essayer d'éradiquer, si on peut dire, les subversifs, mais tuer une seule personne pour tuer une seule personne, on tue 50 personnes autour et on détruit tout ce qu'il faut. Alors les frappes chirurgicales, elles sont ratées, hein. Voilà, et donc voilà. Et
là, c'est ciblé. Là, c'est... On parle de frappe ciblée maintenant. C'est ciblée, le nouveau mot à la mode.
Ciblée, oui.
Non, mais à chaque guerre, ils trouvent un nouveau mot. Vous savez, vous avez des agences de communication, alors que la réalité, bien sûr, c'est la boucherie, la sauvagerie, la barbarie.
La barbarie, voilà. Oscar Wilde, on retrouve exactement ce qu'il avait dit, Oscar Wilde, hein, ça c'est clair et net. Hein. Donc, de toute façon, les Américains, on sait ce qu'ils ont fait dans le temps avec la Serbie, la Libye, l'Irak, le Vietnam, l'Afghanistan, tout ça. Et donc, on voit bien qu'Oscar Wilde avait raison. Il se comporte toujours dans la même manière. Et maintenant, voilà que maintenant, les Israéliens qui ont subi quand même tout ce qui s'est passé, puisqu'on retourne à la Deuxième Guerre mondiale, ils auraient dû quand même être plus cléments. Il ne faut pas oublier que le cinquième commandement dans le décalogue, il dit « tu ne tueras point ». Normalement, s'ils sont dans la tradition mosaïque, eh bien, eh ben non, eh ben, ils se comportent comme tout le monde. C'est-à-dire, quand il s'agit de dire « moi d'abord », eh bien, on ne s'occupe pas de ce qui se passe autour, du prochain. On ne s'occupe pas du prochain. Mmh. Dernièrement, au Liban, ils ont tué ce pauvre prêtre qui s'occupait de 3000
âmes. Le prêtre maronite, oui.
Le prêtre maronite qui a sauté avec une bombe de 900 kilos. De 900 kilos, c'est impressionnant. Impressionnant. Et non, mais c'est, les gens sont devenus complètement fous. Complètement fous. Au nom d'une idéologie complètement abstraite, ils sont en train de se comporter comme des vrais sauvages, des vrais sauvages. Et il faut qu'on arrête ça. Hein. Et je ne sais pas si, à l'époque, nous avions quand même des personnages de haut rang, comme le général de Gaulle, comme Churchill, pourquoi pas. Churchill aussi, il a été quand même, bien que c'est lui qui a donné l'ordre de bombarder Paris. Bon, enfin bref, mais ils avaient quand même une certaine retenue pour certaines choses précises, tandis qu'aujourd'hui, ça, on jette tout dans la bataille, tout ce qui compte, c'est s'accaparer sauvagement d'un territoire qui, en réalité, ça ne leur appartient pas, hein, pour dire ce qui est. Hein. L'histoire du Liban, on connaît l'histoire du Liban, hein. C'est absurde. N'oublions pas ce qu'il a dit Hannah Arendt pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale. Mm-hmm. En 1951, elle a publié Les origines du totalitarisme, une œuvre qui reste aujourd'hui d'une troublante actualité. Hein. Il faut lire cette œuvre-là. Nous la retrouvons exactement maintenant. C'est exactement pareil. Exactement. On rend les gens de plus en plus, comment dire, assujis au mensonge, et sans faire l'effort de regarder le réel, de ce qui se passe vraiment. Les gens sont devenus complètement aveugles. Hein, complètement. Mmh. Et ce texte qu'il faut, moi je conseille de lire, justement, si j'ai encore un conseil à donner comme libraire passeur. Oui. Et bien, il faut lire le livre d'Anna Arendt,
Oui, sur le système totalitaire.
Du totalitarisme. C'est exactement. Mais vraiment, on peut le mettre.
Et la crise de la culture aussi, qui est un recueil d'ouvrages pour ceux qui n'ont pas beaucoup de temps. D'articles, pardon.
Voilà. Anna Arendt parle de la montée du nazisme, de la montée de ce qui se passe actuellement, et on le retrouve exactement. Alors, est-ce que ça, c'est du nazisme? Est-ce que c'est pendant cette période-là aussi du communisme? Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que. Staline, Lénine et tout ça, eh bien, ils sont les auteurs du communisme avec Trotsky et tout ça. Mais n'oublions pas que la Russie d'aujourd'hui, est-ce qu'elle va se comporter à la manière de cette époque-là avec les auteurs de l'époque de l'Union soviétique, étant les responsables qui vont arrêter le processus que nous vivons actuellement. Je me le demande. Si c'est Poutine, si c'est pas le personnage clé, avec l'aide évidemment de la Chine, il va arrêter cette sauvagerie, parce que je ne sais pas où on va là. Là, on est chez les fous, hein. On est complètement chez les fous. Hein. Et ils veulent pas s'arrêter, hein. Ils veulent continuer encore à détruire. Et quand on sait qu'actuellement, les choses sont différentes, puisque l'économie et la finance, est basé sur l'économie du pétrole.
Voilà. Ouais. Gaëtan de Salvatore, on va peut-être terminer cette émission par une note plus positive.
Oui,
je vois que vous avez aussi dans ce livre dont on parle depuis tout à l'heure, Paris-Auteuil sous les bombes, septembre 1943 aux éditions L'Harmattan, que vous pouvez vous procurer, vous avez aussi les photos de l'entrée, par exemple, des chars américains, place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e. Il y a cette libération aussi. Vous en parlez dans cet ouvrage.
C'est ça. Les chars sont arrivés, les premiers chars qui sont arrivés sous Paris, ils sont passés par l'ouest parisien, donc ils sont passés par la Porte de Saint-Cloud. Et vous avez dans le livre, vous avez les premières photos qui ont été tirées tout de suite. Par ce papa de Madame Weiss, elle s'appelait Madame Weiss, et ce que j'ai en main, hein, que je les ai, c'est moi qui maintenant je suis héritier de ça, hein, et bien je les ai mis dans ce livre-là, hein, donc les premières photos inédites, et vous pouvez les voir dans ce livre, et on voit la joie de cette libération quand les gens se sont accumulés tout autour de la Porte de Saint-Cloud pour voir ces drapeaux, les drapeaux français, évidemment les drapeaux américains de ces soldats américains qui sont venus aussi libérer la partie française, quoi, si on peut dire. Voilà. Et c'est tout ça, ça fait un tout. Alors voilà, après les larmes, évidemment, il y a la joie, bien sûr.
Et la reconstruction.
Et la reconstruction, c'est surtout la reconstruction qui maintenant, à cette époque-là, il fallait y penser. Et il y a eu, bon, on voit bien qu'après, il y a eu les 30 Glorieuses qui ont permis justement, c'est la continuation justement de la reconstruction, l'économie, la finance s'est mise de nouveau en place. Et puis à petit, après 1948 à peu près, moi je pense... commencer déjà à trouver d'autres points d'attache pour l'occupation d'une manière différente, non seulement par la pensée, mais aussi par la structure, de voir d'autres horizons, etc. Mm-hmm. Voilà. Et ça, c'est dramatique. Donc, notre époque a été l'époque... Moi, je suis né en 1950, vous voyez. Donc, je suis né dans les 30 Glorieuses, si on peut dire.
Vous êtes ce qu'on appelle un boomer,
je suis un boomer. Donc, moi, j'ai vécu une période nonchalante, il faut dire ce qui est. Hein. C'était une belle période. Hein. Ouais. Jusqu'en 1980. C'est au moment où Mitterrand est arrivé que l'idéologie gauchisarde s'est mise en place, la libération des radios, des radios FM. Et c'est à ce moment-là que cette idéologie de gauche s'est déversée dans la tête des gens, et nous avons connu après les conséquences. C'est pour ça que...
Alors la ville de Paris était relativement protégée jusqu'à l'arrivée de Delanoë et de notre drame de Paris, qui aujourd'hui tire enfin sa révérence. On ne va pas s'en... on ne la regrettera pas, c'est évident. Seuls les surmulots, je pense, regretteront Dame Hidalgo. Vous le reconnaissez encore, votre boulevard Murat, votre place de la Porte de Saint-Cloud ?
Non, complètement changé, complètement changé. Déjà, les habitants ne sont plus les mêmes. Hein. Tous les HLM, moi je me rappelle quand les HLM de Paris, c'était la ville de Paris et la SAGI, la société, je sais plus comment la SAGI. Eh bien, pour rentrer avoir un appartement dans cet HLM, il fallait avoir patte blanche. Hein. On rentrait pas comme ça. Hein. Et d'ailleurs, tous les appartements étaient occupés par des personnalités journalistes et autres hein, connus. Et moi, je me rappelle quand j'ai eu la chance d'avoir un appartement juste à côté de la librairie. Et c'est pour ça que j'avais fait la fête puisque j'étais aussi habitant du lieu. Eh bien, j'avais en face de moi le colonel l'aide de camp du général de Gaulle et qui venait à chaque fois à la librairie à 9h pour bien. Allô?
Mon pauvre Gaëtan, oui, vous avez été votre chic a été coupé.
Non, mais c'est
rien. Pas grave. Donc, c'est... vous avez fini, c'est, l'anecdote est terminée parce que l'émission s'achève.
Il y en a plein de choses à dire. Je pourrais passer des journées et des journées à vous raconter des choses.
Très bien. Écoutez, cette émission s'achève.
Voilà.
Mon cher Gaëtan, je rappelle ce livre que vous pouvez vous procurer aux éditions L'Harmattan, Paris-Auteuil, sous les bombes, septembre 1943, une préface de Pierre-Christian Tétinger et de Michel Thoriac. Merci, cher Gaëtan, pour cette heure passée ensemble. Merci, chers auditeurs, de votre écoute. Et pour ma part, je vous dis à demain matin, 9h, pour le Libre Journal de Géopolitique Profonde. Merci à vous.
Merci.
Vous venez d'entendre le Florilège des Arts, dirigé par Nicolas Stocker, diffusé en direct sur Radio Courtoisie vendredi 20 mars 2026 de 10h à 11h et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.